Actu SF, les podcasts.
Merci à tous. Désolé du petit retard suite à des soucis techniques. On avait prévu quelques planches, elles vont peut-être apparaître durant la conférence, puisque nous sommes aujourd'hui entourés de MM, Fred Blanchard et Fred Duval, pour discuter de Celui qui vient d'ailleurs, nous sauvera-t-il ? Car tous trois ont commis un ouvrage qui s'appelle Renaissance, qui est un ouvrage qui parle à la fois d'un premier contact, une chose que l'on peut voir dans le film, par exemple, Premier contact de Denis Villeneuve, entre autres choses, Rencontre du troisième type. Un thème de la science-fiction qui est assez présent et qui a traversé le genre, mais aussi d'un monde post-apocalyptique, en dégénérescence, avec des inondations, du nucléaire, des guerres énergétiques en toile de fond. Mais ma toute première question, je me tourne vers tous les trois, le premier qui veut répondre commencera, les autres enchaîneront. D'où est venue l'idée de ce projet et est-ce qu'on peut le résumer assez rapidement ?
Alors l'idée du projet est assez ancienne, en fait c'est une volonté de... L'idée de base était de raconter une invasion extraterrestre, mais du point de vue des extraterrestres, et de que cette invasion ne serait pas forcément néfaste ou négative. Donc voilà, c'est plus une envie d'adapter des points de vue de récits de guerre. En fait, toute l'idée tout du départ, c'était ça. C'était les grands récits de guerre qui sont du point de vue du GI, du modeste GI, qui n'y comprend pas grand-chose, pas forcément, qui ne possède pas tous les tenants, les aboutissants du pourquoi de l'opération. J'avais envie de raconter l'histoire d'un gars comme ça, mais qui serait issu d'une autre planète. Voilà, ça c'est la toute première idée. Et qu'est-ce que je dois dire ensuite ? C'était quoi la deuxième question ?
Tu viens de résumer à la fois le pitch. Alors,
la Terre est à l'agonie, ça se passe en 2084. La Terre est à l'agonie, l'espèce humaine est vraiment menacée parce que, en fait, il faut savoir que dans toutes les menaces qui pèsent sur nous en ce moment, c'est plutôt l'espèce humaine qui est menacée, et quelques animaux, mais la Terre s'en remettrait. Hein, si on devait disparaître, la Terre n'explosera pas. Donc, l'espèce humaine et la plupart des espèces vivantes sont menacées, et donc une espèce d'ONU alien. Qui s'appelle le complexe, qui est un regroupement de plusieurs civilisations intelligentes, décide à une courte majorité de débloquer des crédits pour venir chez nous, nous tirer de cette issue fatale. Et donc, évidemment, très vite va le questionnement à la fois des forces extraterrestres et des gens qui la composent, va être sur la légitimité d'une telle intervention, donc sur la possibilité ou pas de faire de l'ingérence dans les histoires de l'intelligence humaine. Donc voilà, c'est ça. Si je pouvais résumer, ce serait comme ça.
Et toi-même, comment tu t'es emparé du projet ?
Fred m'avait parlé du projet, de son idée, déjà depuis assez longtemps. On était encore à cette époque-là, on travaillait sur la série Carmen McCallum. Donc il n'était pas encore... tout à fait question de faire autre chose. Et puis on a eu une fenêtre de tir, on va dire. J'avais fait 8 albums, on arrivait à la fin d'un cycle de 4 albums, et puis l'occasion était là de tenter autre chose. Et donc c'est vrai que cette idée de partir sur un univers tout à fait nouveau, ou en tout cas d'avoir à élaborer de nouveaux personnages, un nouveau contexte, c'était plutôt enthousiasmant. Donc ça fait il y a peut-être 2 ans maintenant que ça a été concrètement mis en place, le fait de travailler, d'essayer d'élaborer l'univers.
Avec Fred, du coup
Alors moi, j'étais pas du tout sur la même optique qu'eux au départ. J'étais juste là pour gagner de l'argent sur leur dos, parce que j'étais censé être éditeur de ce truc-là. J'étais pas du tout censé travailler dessus, faire des dessins. Donc tout a tourné vraiment absolument pas comme j'avais prévu au départ. À savoir les regarder comme ça, patauger dans les pages, le scénario, et bien rigoler sous cap. Mais il se trouve que La façon dont s'est monté le projet, c'est que Fred m'en a parlé, évidemment, m'a parlé de l'histoire, parce qu'en tant qu'éditeur, je suis aussi à l'origine de certains projets, non pas en tant que créateur, mais en tant qu'éditeur. Donc j'étais un peu dans la boucle depuis longtemps. Je me demande même si tu m'en avais pas un peu parlé avant Mathieu, à un moment donné. Hein. Et au niveau de mon implication, c'était assez bizarre, parce qu'évidemment, j'étais partant pour éditer ça. Et il se trouve que juste après les attentats de Charlie Hebdo, en début 2015, prenant mon courage à deux mains, je décide avec toute ma famille de me réfugier 3 mois en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce que j'avais rencontré Greg Brodmore, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait une expo ici il y a à peu près 4-5 ans. Il y a un designer de Weta qui a bossé sur Le Seigneur des Anneaux, District 9, etc. Il m'avait dit, bah oui, si tu veux, passe là-bas, on verra ce qu'on peut faire. On n'a rien fait du tout là-bas. Encore moins des trucs sales, mais n'empêche que j'ai rencontré pas mal de gens là-bas et j'étais allé un peu dans l'idée aussi de me dire voilà, ce que veut raconter Fred, c'est quand même un truc assez particulier. J'ai pas envie qu'on ait la énième série de science-fiction avec des aliens un peu bateaux, comme on a déjà vu 10 000 fois. Et j'ai saisi l'opportunité de rester là-bas pour commencer à pousser quelques pions auprès des gens de Weta, à leur demander s'ils seraient éventuellement prêts à faire du design pour la bande dessinée en France. Alors l'idée était d'en ramener un ou deux, et de, sur des projets tels que Renaissance, avoir des gens qui allaient me concevoir des vaisseaux, des aliens, ou même sur des séries d'Heroic Fantasy, des monstres, des choses comme ça. Je trouvais ça vraiment pas mal, je sentais qu'il y avait pas mal de frustration chez eux, parce que pour eux, les gens qui conçoivent des décors, des choses comme ça, pour l'industrie du cinéma, pour eux, ce n'est pas un rêve, c'est juste un boulot. Donc, ils ont vraiment besoin de se sortir un peu de ça. Donc, voilà, j'avais tendu 2-3 perches là-bas. J'avais un designer qui s'appelle Christian Pierce, qui a créé les aliens de District 9, qui avait créé aussi le robot de Chappie, qui était prêt à partir sur un album ou deux avec nous. Et il se trouve que, au bout de 3 mois, je rentre en France. Mathieu rentre dans la danse, donc je me suis dit c'est génial. Je rappelle le gars de Weta qui m'a dit qu'il était d'accord, et puis il va commencer à bosser avec eux. Et là, il m'a jamais répondu, donc c'était un peu emmerdant. Donc du coup, je me suis dit, mon Kiki, il va falloir quand même que tu aides un peu les copains, tu ne peux pas les laisser comme ça, parce que j'avais promis ça à Mathieu dès le départ, et puis du coup, on se retrouvait un peu comme des crétins. Donc voilà, je suis un peu rentré dans l'équation, moi, comme ça. C'était pour combler un vide que je pensais vraiment confier à quelqu'un d'autre, à la base. Effectivement, j'étais parti donc sur le poste éditeur et sur le poste design. Et il se trouve qu'à la fin, je n'ai même pas édité le bouquin parce qu'il est parti chez un autre éditeur. Mais il a quand même fallu que j'assure le putain de design de tous les vaisseaux et tout ça. Heureusement, c'était avec Mathieu et Fred, donc c'était plutôt pas mal. En tout cas, voilà comment je me suis retrouvé impliqué dans ce truc-là. Alors là, j'aurais pas dû être là aujourd'hui.
Et du coup, bah, on a refait le coup de Carmen McCallum 20 ans plus tard, en fait, parce que avec Fred, on avait un peu inventé, et Jess et Vatine, on avait inventé Carmen McCallum il y a 25 ans. Et là, on s'est retrouvé avec Mathieu à refaire un travail de mise en commun et des choses, qui est quand même, à mon avis, la meilleure solution pour faire des bons bouquins.
Et comment ça se passe que travailler à trois, justement, sur un album, bah. Puisque d'habitude, on est plus sur une relation, soit on fait un album tout seul, soit on travaille en binôme.
Non, ouais, moi j'écris mon scénario. Enfin, on en parle un peu en amont, on brasse les idées comme toujours dans une collaboration. Là, on a fait ça. On a eu un voyage un peu plus long que prévu avec Mathieu, donc on a voilà. au lieu de bosser jusqu'au tome 12, on est au 26 là à peu près. Et donc on brasse les idées, on discute. Après, moi j'écris mon scénario et je l'envoie aux deux. Au même moment, en fait, et puis après, je sais pas, ils discutent un peu tous les deux, on discute à trois, on échange, on parle de choses. Moi, dans un scénario, j'indique jamais comment je veux voir les formes des choses, mais je dis à quoi elles servent. C'est et ça. Eux, ils rationalisent, Fred rationalise, donne une ligne directrice de design, en fait. Et puis après, bah, Mathieu fait vraiment sa narration. C'est ça, voilà. Je vous laisse la parole, les gars.
En fait, c'est ta façon de voir les choses. C'est pas du tout la mienne. La mienne, c'est que je suis une pièce essentielle de ce projet. Donc tout passe par moi. C'est-à-dire que non, mais globalement, c'est vrai que Fred envoie le scénar. Je suis censé fournir les designs à Mathieu. Des fois, je reçois le scénar au mauvais moment. Donc ça m'emmerde de bosser ça. Le tout, c'est diplomatiquement ne pas leur faire comprendre ce genre d'atermoiement, donc toujours dire ok, tout ça, tout va arriver. Mais n'empêche que, blague à part, il y a quand même, heureusement qu'il y a beaucoup de communication entre nous, parce que ouais. Moi je me retrouve un peu entre les deux. C'est-à-dire que je dois interpréter le scénario de Fred au même titre que Mathieu, ben oui. Pour certains éléments, surtout pour les éléments extraterrestres. Mais mine de rien, la communication, c'est la clé de tout. Parce que il faut déjà que... Mais on est en train de nous piquer un truc.
On nous pique des planches.
Non. Vous n'êtes pas très discret, monsieur.
Alors, regardez pas tout. Hein.
Bon, c'est n'importe quoi. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, du coup, oui, il y a une espèce de boulot de va-et-vient comme ça sur les idées qui est quand même assez important. Surtout à mon niveau, parce que je suis quand même là pour... je ne suis pas auteur vraiment à part entière. Je suis là pour ramener un petit plus sur les designs. Donc, je fais vraiment le lien entre Fred et Mathieu, en ce sens que vraiment, je suis un peu sur une étape intermédiaire où je dois commencer à réinterpréter les scénarios de Fred comme Mathieu, mais même un strapontin. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis bien content de ne pas être sur un tabouret, quand même. Et voilà, moi, en tout cas, à mon niveau, c'est ça.
Bon, en ce qui me concerne, oui, après, c'est, on bosse vraiment sur les idées à partir du découpage de Fred Duval. Du coup, ce que l'on fait, c'est essayer de capter l'esprit et le sens que doit avoir un design, par exemple, ou une ambiance. Et donc, à partir de ça, comment on bosse ? C'est du ping-pong. Parfois, je peux aller jusqu'à proposer une idée, ou bien pas du tout, ou bien je fais totalement confiance à Fred Blanchard, cette fois-ci, qui a établi une espèce de grammaire visuelle à partir de... à partir de laquelle je peux travailler, essayer de picorer à l'intérieur des éléments et pour les... Ouais, un grand départ là, qui se fait d'un coup.
Revenez, revenez. Il y a une conférence qui commence.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, à partir de là, moi, je recompose ou je développe ou je réadapte aussi à la narration. C'est surtout ça aussi, adapter, faire en sorte que ces designs qui correspondent justement à l'esprit qu'a voulu donner Fred Duval, que ça rentre dans la narration et que ça soit fluide.
Ouais, voilà. Puis moi, de mon côté, j'écris pas tout d'un coup non plus parce que j'aime bien rebondir sur ce qu'ils ont créé. Donc, j'ai écrit par paquet de 10 planches à peu près. Et parce qu'il y a des solutions visuelles qui arrivent toujours dans les recherches. Et ça change pas le fond de l'histoire, ça change pas la trame générale, mais ça peut apporter quand même des enrichissements et des idées, notamment dans ce qu'on peut appeler les péripéties, c'est-à-dire les petites séquences d'action, les choses comme ça, qui sont pas vitales pour le bouquin, mais qui, mine de rien, lui donnent un vrai attrait visuel. Et donc, j'aime bien, moi, c'est la situation idéale pour moi. C'est ma façon de bosser. J'aime vraiment rebondir, réfléchir au dessin. Et donc, non pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais l'intégrer aussi et le réinjecter dans les planches suivantes. Ça, c'est vachement intéressant pour un scénariste d'avoir deux palettes différentes qui se complètent. En fait.
En parlant de scénario, tu as dit tout à l'heure que l'extraterrestre était au centre du récit, que tu voulais créer quelque chose de nouveau à travers ce complexe qui décide de sauver la Terre, qui est l'agonie. Quels ont été, pour toi, d'un point de vue scénaristique, les références que tu peux mettre en avant?
Alors, les références en science-fiction, il n'y en avait pas tellement. Bon, évidemment, on peut parler de Fondation, on peut parler de toute une science-fiction que j'aime. Mais ma référence, c'était vraiment... Enfin, si je devais citer un film, par exemple, ou une ambiance particulière, c'est les récits de guerre sur le Vietnam, ou comme par exemple Voyage au bout de l'enfer, qui m'a pas mal influencé, en fait, parce que Voyage au bout de l'enfer, finalement, il y a une solution que j'ai toujours trouvée extraordinaire, c'est qu'avant d'envoyer les gens sur le front, donc ils sont russes d'origine, ils vivent aux États-Unis, c'est vraiment une petite communauté très très particulière, et on assiste au mariage, je ne sais pas si vous avez vu le film, et le mariage peut sembler au spectateur qui a envie de voir un film de Vietnam, peut paraître interminable, très très chiant, et en fait c'est tout ce qui fait le sel du film, c'est le mariage et la scène de chasse qui scellent les personnages entre eux. et qui ensuite, quand on les retrouve sur le terrain de guerre, on se rend compte que les gens, leur personnalité n'est pas forcément celle qu'ils avaient quand ils étaient dans le civil. Enfin, il y a tout un travail d'approche comme ça qui m'a toujours fasciné. Et j'avais envie de... Ça c'était la première référence pour moi, c'était ce récit-là. Après, c'est pas vraiment un récit de pure science-fiction renaissance, en réalité. C'est plutôt une métaphore, je pense, sur le fait que, ça on l'a pas encore dit, que avec série B depuis 25 ans, dans les Carmen McCallum, les Travis, je développe un univers cyberpunk très sombre, où finalement il y a peu d'espoir. Et là, j'avais envie, tout bêtement, à 50 ans, d'écrire quelque chose avec une fenêtre quand même ouverte, avec une lueur d'espoir. Alors, cette lueur d'espoir, évidemment, on peut la trouver un peu naïve, dire, oh, bah oui, évidemment, on ne peut plus rien faire, ce sont les extraterrestres qui vont nous aider. Mais si on interprète l'extraterrestre comme finalement une métaphore humaine, eh ben, on peut se dire que peut-être que ce qu'on a envie de raconter, c'est qu'on a encore peut-être un petit peu de ressources chez nous et qu'il faut aussi faire confiance aux autres et puis être accueillant avec les gens. Voilà, moi, j'ai beaucoup pensé aux réfugiés, à tout ça, quand on écrivait en Renaissance, en fait. On parle toujours du présent, mais là, vraiment, j'y tiens parce que ça parle que de ça, en fait.
Et le principe d'avoir une narration chorale avec plusieurs groupes qu'on suit, sans forcément, et même extraterrestres, au niveau du couple extraterrestre qu'on suit, est-ce que c'était une volonté de gommer, de ne pas avoir de vrais héros qui se détachent ?
Oui, parce que l'idée pour l'instant sur ces trois premiers, c'est de présenter plusieurs cas de figure, en fait. Les deux femmes, par exemple, peuvent sembler au début assez proches, mais finalement, on en a une qui est décideuse, qui dirige une entreprise, l'autre qui est plutôt pauvre, qui vit à Paris. Donc voilà, et on va voir comment ça va évoluer. Je ne sais pas encore, justement, c'est la discussion qu'on avait avec Mathieu tout à l'heure dans le train, sur l'évolution des deux femmes. Sachant qu'on a volontairement mis une cellule familiale assez semblable, deux couples hétérosexuels avec des enfants, voilà, pas du tout le même milieu social, voilà, pas du tout le même endroit géographique, et on va voir en cas de guerre qu'est-ce qui leur arrive. Moi, je ne sais pas encore. Le personnage évolue, c'est-à-dire que je sais comment ça se termine globalement, hein, mais ce que vont devenir vraiment les choix que vont faire les personnages, ça reste quand même à déterminer au fil de l'écriture. Puis bon, bah évidemment, là ça va être c'est moi un peu mon boulot de la semaine prochaine, en fait, pour tout vous dire. Donc il me reste 10-12 jours pour réfléchir à 2-3 destins. Mais oui, pas vraiment de héros, et notamment dans le couple, parce qu'il s'agissait pas, dans le couple alien, j'entends, puisqu'il s'agissait pas de montrer un modèle où avec un homme ou une femme dominante, mais là ils sont vraiment très 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 complémentaires, comme leur société, en fait, puisqu'ils vivent en harmonie avec la nature. On voit que ça, c'est, en fait, c'est une terre qui a réussi, Nakan, hein, c'est une terre qui a su trouver l'équilibre entre technologie et nature, préservation. Donc j'avais vraiment envie de montrer quelque chose qui, c'est un équilibre qui, lui aussi, une fois dans le théâtre de guerre, était rompu. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a beau être des extraterrestres super intelligents, super plus évolués que nous, à partir du moment où vous mettez une organisation militaire avec une telle mission, bah dans le détail, les militaires font pas toujours dans le détail, donc effectivement, petit problème d'affectation, elle se retrouve à Paris et lui se retrouve au Texas, et évidemment c'est pas la porte à côté, ils passent pas leur soirée ensemble, donc ça aussi, je trouvais ça marrant, quoi.
Alors moi, je t'écoutais, puis il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, et je crois qu'on n'a jamais parlé ensemble, donc c'est assez marrant. Et le fait que c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez lu l'album, mais il se trouve que les deux héroïnes, les deux personnages principaux humains sont deux femmes, donc des mères de famille. Il y en a une sur le continent européen et une sur le continent américain. Donc effectivement, il y a une espèce de doublon comme ça, a priori, quand on feuillette l'album, on se dit, il y a deux fois un personnage féminin fort. Mais moi, je trouvais que, justement, au-delà de leur caractérisation, de ce qu'elles sont, j'ai l'impression aussi que... Alors, je ne sais pas si tu l'as fait de manière consciente ou pas, c'est dingue, hein, mais je me demandais... Ouais, allonge-toi, mais je me demandais si, justement, tu n'avais pas cherché aussi à symboliser la façon dont le continent européen et le continent américain réagiraient à une invasion
dans son
territoire.
Oui,
parce
oui,
que tu vois bien que les deux ne réagissent pas de la même façon et tu as l'impression qu'elles vont, à la base, elles sont sur une même trajectoire de vie. Et du fait de cette invasion-là, elles vont partir sur deux trajectoires, mais quasiment diamétralement opposées, qui vont symboliser vraiment deux cultures différentes.
Voilà. Et donc, je ne dévoilerai pas le destin, puisqu'on en a... Mais là, c'est un peu ce qui est en train de sceller. Et on verra quand même qu'un des deux personnages va rester finalement ce qu'il était avant, c'est-à-dire profiter de l'aubaine, et puis certainement... s'intégrer dans le processus de sauvetage, tandis que l'autre personnage, beaucoup plus décideur, individualiste et révolté, va avoir un destin un petit peu plus en résistance ou en opposition avec la proposition. Mais voilà, ça, évidemment. Et ça aussi, bien sûr, Hélène symbolise la vieille Europe un petit peu qui vit comme elle peut, mais ça, avec son expérience et puis son intelligence, ses qualités, ses défauts. Et puis Liz symbolise une Amérique du pétrole qui va de l'avant, qui va toujours de l'avant, qui va très vite. Oui, bien sûr.
Qui va très vite dans le mur, pour le coup.
Très, très vite.
Et toi, Mathieu, au niveau de tes influences, quand tu as reçu le scénario, est-ce qu'il y a des... Et toi aussi, Fred, puisque tu étais au design, est-ce qu'il y a des thèmes de l'ASF ou des œuvres qui vous ont beaucoup inspiré pour illustrer le...
Je laisse d'abord parler Mathieu, quand même.
Ouais, ouais. Fred m'avait conseillé de lire, Fred Duval m'avait conseillé de lire un bouquin, ça s'appelle Putain de mort, de Michael Herr, justement, sur le vécu d'un GI à un moment pendant la guerre du Vietnam. Donc justement, pour essayer de m'imprégner de l'ambiance qu'il avait en tête à cette époque-là. Après, il y a d'autres choses auxquelles peut-être, je ne sais pas si c'est très proche, mais moi j'avais en tête au moment de un peu plus, quand on était un peu plus avancé dans le projet, j'avais en tête le Green Zone, un film avec Matt Damon de Paul Greengrass, si je ne dis pas d'annerie. Pareil sur le destin d'un GI américain là pendant l'invasion. Venu des Américains en Irak. Et donc, on adoptait son point de vue à lui, voilà, sa vision des choses. Et il y avait ça. Et puis, aussi, on parlait de premier contact pour l'aspect. Pour certains aspects visuels, une espèce de sobriété, de tranquillité dans la façon de représenter la venue d'extraterrestres, et puis des petites astuces visuelles qui étaient, que je trouvais vraiment intéressantes et plutôt bien pensées et assez cohérentes avec ce qu'on pourrait imaginer de technologie extraterrestre.
Et pour le monde extraterrestre en tant que tel, est-ce que tu as été totalement libre d'illustrer ça comme tu voulais
Alors totalement, c'est vrai que ça s'est fait beaucoup avec Fred aussi, du coup Fred Blanchard, c'est quelle idée de ça, autant de Fred, c'est terrible. Mais oui, on en avait discuté un petit peu, et surtout Fred avait lancé une illustration. Il avait proposé une illustration qui m'a un peu servi de socle à partir duquel je savais à peu près dans quelle direction aller. À partir de là, à partir de ce maître étalon, on va dire, je savais ce que je pouvais essayer de tirer dans un sens ou dans l'autre, et, sans trop essayer de sans trop m'en éloigner. Et donc, à partir de là, ouais, j'étais complètement libre. Dans une certaine ligne, j'étais libre.
Bon, alors, encore une fois, moi, mon rôle était simple, parce que j'étais là pour amener des formes les plus... j'étais là pour amener un plus sur l'album. Donc, j'ai pris ça vraiment comme un peu comme un boulot de commande, où j'ai regardé les choses pragmatiquement. Et là, pour le coup, je suis un peu parti en amont de vous deux, parce que j'étais vraiment concentré que sur ça. Donc, je me suis dit, quelle est la meilleure façon de proposer quelque chose d'original, en tout cas un minimum original par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Parce qu'encore une fois, comme le designer de Weta n'était pas là, je me suis dit, bon, ben voilà, j'étais confronté à ce truc-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur ce truc-là. Et je suis parti d'un constat super simple, c'est que dans tous les films de science-fiction de ces 50-60 dernières années, quand il y a une invasion, quand les extraterrestres arrivent, on a de toute façon des soucoupes volantes qui sont rondes. Donc j'ai dit à mes deux petits camarades, bah, pour être original, partons sur des formes carrées, parce que ça, on n'a jamais vu en film, etc. On n'a pas ça, on n'a jamais vu. Et puis, plutôt que partir sur des designs vachement alambiqués, avec des tonnes de détails, parce que j'avais été confronté il y a quelques années, j'avais fait une adaptation en comics d'un roman Star Wars avec Vatine pour les États-Unis, où on avait été obligé de dessiner des vaisseaux de Star Wars, des chasseurs X, le faucon millénaire, tout ça, c'était super chiant. En fait, c'était une galère à dessiner parce qu'on s'aperçoit tout bêtement que ces vaisseaux-là ont été conçus, ont été dessinés pour bouger devant une caméra. Donc, ils sont super beaux quand ils bougent sur un écran. Quand vous devez les dessiner page après page sur des tonnes de cases, vous vous rendez compte déjà que c'est des objets qui ne rentrent pas très bien sous plein d'angles différents. Donc, à peu près, il y a trois angles sous lesquels chaque vaisseau est beau à regarder sur une image arrêtée. Donc, je voulais vraiment éviter ça. Je voulais vraiment éviter que Mathieu galère à devoir dessiner des trucs super compliqués sous plein d'angles, parce que je voulais aussi que il puisse vraiment aussi prendre tout ça en main hyper facilement. Donc voilà, partant de ces deux principes-là, on est très vite parti sur des vaisseaux carrés. Sans trop de détails. Alors, il y avait aussi ma fascination pour 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'il y a ce monolithe noir qui est hyper emblématique, qui est indépassable dans le genre. Quand on pense à ce film, c'est un archétype, c'est un symbole qui est un peu indépassable dans le cinéma de science-fiction de la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, en partant de ces deux principes-là, de base, on est aussi un peu retombé sur ça. On a fait un peu écho à des films qui ont été quand même assez matriciels dans l'histoire du cinéma. Donc, je me suis dit, on a quand même tapé hyper fort dans les intentions de départ. Et puis, partant de là, après, on a décliné les formes. Et ce qui est marrant, c'est que le vaisseau mère, donc je ne sais pas si vous avez vu l'album, mais c'est des énormes vaisseaux carrés, je ne sais pas combien ils font, de centaines de mètres. Tout ça, ça a été conçu avec des chutes de carton de l'expo des 30 ans de série B que j'avais fait il y a 3 ans ici aux Utopioles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un décor de vaisseau tout noir avec des pages à l'intérieur. Et pour concevoir ce truc-là, j'avais acheté du carton plume. Il me restait des formes. Et plutôt que dessiner les vaisseaux au départ pour Mathieu, j'ai commencé vraiment à les fabriquer, en fait, tout bêtement. Ça m'a permis de tester tous les angles pour voir s'il serait bien dessiné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se balader, lui.
Non, on fait passer Gagbon, donc.
Ah non, bah, alors, voilà. Super, je croyais que tu partais. C'est n'importe quoi. Non, les gens partent sur la salle aussi. Enfin, dans la salle aussi, oui, mais sur l'estrade aussi. Donc c'était vraiment le principe de base. Pour moi, c'était ça. Aller vers de la simplicité, vers quelque chose qui serait emblématique. Et puis, bon, on a quand même relativement été d'accord sur cette alchimie qu'on avait trouvée à ce niveau-là.
Bah ouais, ouais.
En tout cas, sur les vaisseaux, oui. C'est...
Moi, quand j'ai vu les trucs super plats ou qui se pliaient en carré, ça m'a fait rire parce que j'avais envie de travailler sur des aliens qui seraient en gaz, en fait. C'est une idée que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans la SF, mais oui, je crois. Mais bon, bref. Et j'avais une idée comme ça d'avoir des consciences gazeuses. Et je me suis dit, bah voilà, on a nos pilotes parce qu'ils peuvent être dans un truc super plat, en fait, puisque le gaz se dissout comme ça.
Ah oui, c'est vrai. Je te coupe 30 secondes, parce que c'est vrai que j'avais fait des chasseurs que j'adorais. J'avais fait des... Bon, les gros vaisseaux, les chasseurs étaient tout plats, et puis au bout d'un moment, je leur envoyais le truc. Je me suis dit, mais où on va foutre le pilote?
C'est ça.
J'avais juste pas pensé à ce
sujet. C'est là que le scénariste dit, j'ai un pilote, c'est bon.
Impilotable. Donc voilà. Je me suis dit, merde, il va falloir que je rajoute une cabine, ça va être super moche. Ils me font chier. Ils vont péter mon super beau design. Et là, en discutant, encore une fois, la communication est vraiment au centre de tout. T'es parti avec
je lui ai présenté Gaz. Voilà. Et Gaz, ça gaz.
Voilà. La tête et les jambes. Voilà.
Et c'était rigolo parce que l'idée du gaz n'était pas gratuite. Dans Renaissance, il y a toute une charte qu'on découvrira au fur et à mesure des albums. Mais il y a vraiment des débats éthiques. Et ils ont, eux, passé déjà le cap d'interdire les drones, en fait. Et c'est rigolo parce que j'ai vu que la discussion entre là en ce moment. On va vraiment discuter du fait de désarmer les drones et d'interdire les drones armés. Et ça, c'est une question éthique fondamentale. Hein, puisque, et donc, Renaissance n'envoie jamais au combat de drones sans pilote. garde cette idée du s'il faut tuer, il faut qu'il y ait quelque, il faut qu'il y ait une conscience dans l'arme en fait. Voilà. Alors bon bah ça fait partie des petits débats qui moi qui m'intéressent depuis longtemps. Et bon bah c'est marrant puisque là visiblement les grandes instances mondiales vont se mettre à débattre de ça la semaine prochaine, je crois.
Et tu parles de messages en sous-texte avec les drones par exemple. Le thème de l'écologie, des ressources, de l'appauvrissement des ressources et des désastres.
Bah oui, bah ça fait 30 ans que j'en parle dans mes BD, de toute façon. Oui. Donc voilà.
Mais c'était important pour toi que cette terre soit dans cet état et que tu montres un futur des possibles qui soit très réaliste.
Bah oui, là c'est vrai que je vais peut-être pas rassurer les gens, mais là je pense que, enfin depuis quand on a commencé. Avec quelques-uns, et je ne suis pas le premier à avoir parlé d'écologie dans la science-fiction, mais dans les années 70, 80, 90, c'était encore de la science-fiction. Aujourd'hui, on est quand même arrivé à un stade où on sait bien que là, ça va être super compliqué, de toute façon. Alors, ça ne sera peut-être pas Walking Dead, on est d'accord, mais ça va être très, 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 très complexe. Et on voit bien que, de toute façon, le modèle économique actuel, la façon dont le capitalisme s'est structuré et s'est développé, ne va plus fonctionner d'ici quelques décennies. Donc oui, là on n'est plus dans moi ce qui m'intéressait dans Renaissance, c'est de dire bon ben voilà, c'est comme ça, il va y avoir des conflits, alors on verra bien comment, dans quelle source, jusqu'où ça va quoi. Mais que fait-on après ? Voilà. Mais je pense qu'effectivement, j'espère me tromper, hein, mais qu'on va vers une société. Très 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 compliqué qui va devoir gérer de plus en plus de problèmes et que malheureusement ça j'avais c'était plus mon départ pour une autre série qui s'appelait Météor que j'avais écrit il y a une dizaine d'années que le grand risque finalement n'est pas de l'écroulement ne passera pas forcément par une guerre ou quoi que ce soit mais simplement par des catastrophes naturelles qui vont faire que les assurances vont faire faillite à l'échelon mondial et si les assurances font faillite aucune banque n'y survivra enfin voilà donc c'est voilà on peut assister à un écroulement par ça mais je voulais pas vous pourrir votre week-end quoi c'est je suis désolé.
Ce monde te permet quand même de dessiner des petits clins d'œil genre la Tour Eiffel qui sert de
oui alors
est-ce que Mathieu s'est beaucoup amusé c'est lui qui a proposé
sur la Tour Eiffel.
Oui.
Je ne sais pas si je me suis beaucoup amusé sur la Tour Eiffel. J'ai passé beaucoup de temps. Non, si. Je me suis bien amusé, mais c'est vrai que c'était pour rendre une image comme ça très avec qu'elle ait un poids, qu'elle ait une vraie présence. Il fallait de l'ampleur. Donc oui, j'ai pris un petit peu de voilà. Ça m'a pris quelques journées longues et avec beaucoup de minutie pour essayer de rendre crédible ce genre d'image.
Est-ce qu'il y a justement des planches qui t'ont posé réellement du souci ou sur lesquelles tu t'es dit il faut que je rende ça grand ou que je prenne le point de vue de l'extraterrestre qui découvre des paysages?
Non, aucune difficulté. Non, c'est voilà, professionnel jusqu'au bout. Adopter le point de vue de l'extraterrestre, c'est dans l'écriture de Fred qu'elle apparaît qu'il apparaît ce point de vue-là. Donc c'était la difficulté n'était pas là, c'était s'il y avait une difficulté, c'était de rendre justement ce point de vue compréhensible pour le lecteur, en fait, qu'on puisse se mettre à la place de l'extraterrestre. Donc là, dans l'écriture, c'était clairement là. Donc, moi, après, il fallait que je rende ces extraterrestres crédibles, là aussi, enfin vivants en tout cas, et qu'on ait envie de les suivre, qu'on ait envie d'adopter leur point de vue aussi, qu'on ait envie de comprendre la façon dont ils voient les choses.
Et comment on fait d'un point de vue scénaristique pour essayer de ne pas tomber sur quelque chose, un extraterrestre trop anthropomorphique? Est-ce qu'on réfléchit
Oui, on a pas mal discuté de ça. Il fallait quand même qu'il y ait une empathie immédiate. C'est-à-dire que vraiment, là, l'idée, le projet était quand même, avait une petite ambition qui était de rendre sympathique des visages auxquels on n'est pas habitué. Donc, quand j'ai envie de plaisanter, je dis qu'il fallait rendre humain des grenouilles, quoi, en gros. Hein, donc, c'est pas. Alors, le Muppet Show, il est super bien arrivé. Mais là, on était dans le premier degré, dans quelque chose de. Voilà, il fallait que les gens puissent s'identifier, parce que si on ne s'identifie pas, il n'y a pas d'empathie avec le personnage. Et donc, tout le truc était là. Alors, donc, graphiquement, il fallait que ça tienne la route. Donc, on a beaucoup parlé du regard, des yeux de Swan et de Satie. Ça, on n'a rien inventé, puisque c'était le truc de Spielberg avec E.T. Hein, tout se passait par le regard. Et ça, c'était une. Moi, je l'ai indiqué dans nos discussions. Voilà. Ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Mais c'était. Ça, et puis après, y a la manière de les présenter. Donc, il fallait qu'ils soient humanoïdes parce que là, moi, je veux bien arriver à faire rendre sympathique une tête un peu de batracien avec des yeux sympas. Mais si en plus il y a 12 pattes, je crois que les gens vont pas. Enfin, non, les gens sont pas prêts. Ouais, oui, je crois que les gens sont vraiment pas prêts à s'identifier une espèce d'araignée de l'espace. Ça, j'y crois pas trop. Mais ça n'empêchera pas d'en montrer plus tard. Et donc, dans un premier temps, oui, l'humanoïde. Puis. Voilà, on reste quand même dans cette possibilité de métaphore.
J'avais essayé à un moment donné c'est pour dire comme la forme anthropomorphique est super importante pour véhiculer un récit, surtout que c'est le personnage principal. J'avais essayé à un moment donné de déplacer un tout petit peu le curseur en leur mettant des œufs, n'importe quoi.
Les yeux.
Les yeux de chèvre, parce qu'il y avait une cornée qui était vachement plus allongée, tout ça. Ils ont vu arriver le truc, ils étaient complètement catastrophés parce que faire passer de l'empathie, de la colère encore, oui, why not, ou un lendemain difficile, oui, très bien, mais alors faire passer de l'empathie au travers d'un œil de chèvre, c'était juste impossible. Alors j'étais très déçu sur le moment, et après coup, je me suis dit peut-être que ça permettra quand même de donner une chance un peu commerciale à l'album, parce que si on n'arrive pas à faire passer d'empathie par le regard du personnage principal. Ça aurait été un peu dur. Et en plus de ça, on a les yeux sont un peu hypertrophiés. On a un peu repris, qu'on le veuille ou non, la recette d'E.T. On a agrandi les yeux. Disons que voilà, il y a le curseur, on peut pas trop le déplacer non plus. On a parlé de la couleur aussi. À un moment donné, j'aurais dit, mais attendez, un extraterrestre vert, c'est juste pas possible, quoi. On a vu ça 10 000 fois. Et puis. Mine de rien, on est quand même sur de l'image arrêtée. On n'a pas une latitude de mouvement qui est vraiment trop grande. Déjà, dans le cinéma, quand vous avez des films de science-fiction, que vous avez des extraterrestres qui ont un minimum d'importance dans un récit, vous voyez déjà qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de partir trop sur des formes trop bizarres, quoi. On peut se le permettre en littérature beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, nous, on s'est rendu compte assez vite. Bon, c'était pas le désir de base, mais en tout cas, même si on avait voulu déplacer le curseur un tout petit peu, de toute façon, on s'est vite retrouvé face à un mur, tout bêtement.
Oui, il fallait quand même réfléchir au fait que, vu qu'on était sur un héros, un couple de héros, finalement, ils allaient sur plusieurs albums devoir conduire des véhicules. On n'était pas. Moi, je suis fan du film de Villeneuve, Premier Contact. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Mais ils restent toujours en retrait, même s'ils sont très importants. Mais c'est pas du tout eux les héros. Et là, du coup, ils ont un côté monolithe presque de 2001. Ils sont derrière leur truc et puis font leur joli dessin.
Il y a une histoire rigole, je te coupe pour 2001, mais à la base, je ne sais pas si vous savez, mais ils étaient à la fin du film, on était censé rencontrer des extraterrestres. Et ils ont été à l'époque limités techniquement par la possibilité de représenter un extraterrestre de manière crédible. Et en plus de ça, Kubrick est parti sur des formes un peu. Il leur a dit expérimentez, proposez-moi des choses. Et ils se sont retrouvés face à une impasse. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont redéplacé le curseur non pas vers l'anthropomorphisme, mais carrément vers l'abstraction. C'est-à-dire qu'ils sont presque allés vers tes consciences gazeuses. Et la présence extraterrestre est devenue symbolique au travers de ce monolithe qui, à la base, était une pyramide. Donc c'est vraiment pour dire que ça a aussi évolué. Et ils se sont retrouvés face au même mur qu'on a dû non pas escalader, mais. Contourner d'une manière ou d'une autre.
Mais les consciences gazeuses, vous les aurez dans le tome 2 et 3. Hein. Vous pourrez les aimer, etc. Ouais. Mais voilà.
On leur mettra des yeux de chèvre.
Oui.
Chouette.
Il reste un petit quart d'heure. On va peut-être vous passer le micro pour voir si vous avez des questions.
Oui, bonjour. Bonjour. Par rapport à l'organisation extraterrestre, est-ce que il n'y a pas un peu du gène Roddenberry derrière avec pas la lui. Fédération ? Non, pas du lui. Tout.
Non. Moi, je lis beaucoup de littérature. C'est très large, en fait, mes influences. Et là, j'ai pensé. Bon, alors, si vous voulez vraiment des références SF, bah, Zelazny, voilà, les vieux Zelazny, parce que pour le côté post-apocalyptique, qui est quand même hyper bien fait. Sturgeon, parce que vraiment, Sturgeon, c'est peut-être le plus grand écrivain, en fait, en termes de style et de voilà. Donc, c'était les romans de Sturgeon. J'ai pensé un peu au Philip K. Dick de Dr. Blood Money pour le côté post-apocalyptique. Et puis cette envie quand même de survivre, voilà des références comme ça. Il y en a d'autres évidemment. Bon, j'ai cité Fondation, mais j'ai pas ressorti tout ça. C'est-à-dire que même Sturgeon, ça fait 10-15 ans que je me dis qu'il faut que je relise Sturgeon et que je le fais pas parce que voilà, on essaye d'avancer. Et puis là aujourd'hui, je suis plus dans la littérature plus classique, on va dire. Voilà, mais donc il n'y a pas vraiment. Je suis parti en fait d'envie. Et puis à tous les trois, je pense qu'on a eu une réflexion collective qui a permis finalement de construire ce truc. Et il est vraiment en construction. Là, dans le tome 2, on va voir quand même une réunion du complexe, quoi, donc de certains représentants du complexe. Et j'ai expliqué à Mathieu tout à l'heure que ça arrive en page 20, 30 et 31, donc ça va être une double planche. Et je pense qu'on va laisser de la place parce que ils vont pas pouvoir. Il y a une quinzaine d'espèces extraterrestres, de races à montrer. Il va falloir qu'on fasse ça sur toute la durée du bouquin, puis qu'il complétera à la fin, parce que sinon on va faire ça précipitamment, et on est encore en train d'en discuter. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans la BD, dans le côté feuilleton de la bande dessinée, et ça c'est une chance incroyable qu'on a, et qui est de ne pas tout livrer d'un coup au lecteur, et donc d'avoir de créer quelque chose sur vraiment une... là ça va être sur 3-4 ans, quoi, pour ce premier cycle.
Non, n'empêche qu'en plus, la question sur les références à Star Trek est intéressante parce que je pense que c'est tout ce qu'on va vouloir éviter. Bon, déjà, oui. À titre personnel, il m'aurait dit on va faire du Star Trek. J'aurais dit non, je me casse, je ne veux pas rester dans ce truc-là, je déteste Star Trek.
Même
c'est,
avec des
c'est pas possible. Mais en plus de ça, c'est vrai que ça fait partie des écueils vraiment qu'on va devoir affronter parce qu'on ne peut juste pas refaire ça. Donc, effectivement, je pense qu'on va pas trop se replonger dans nos lectures de jeunesse, de SF et tout ça. On va vraiment plutôt aller chercher ça ailleurs. Moi, je sais que là, je vais plutôt aller voir dans des bouquins sur les animaux ou sur l'architecture. En fait, je vais vraiment essayer d'explorer d'autres pistes, mais surtout pas revenir et se remettre en tête des œuvres de science-fiction. Vous savez, on les a déjà suffisamment en tête comme ça. Il faut vraiment essayer de tourner un maximum le dos à tout ça.
Du coup, vous les gardez à l'esprit pour les éviter ?
C'est trop compliqué comme question. Je veux partir maintenant.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
En fait, si on prend une... C'est ceux qui viennent d'ailleurs nous sauver, bah, il va falloir peut-être changer nos comportements parce que si nos comportements actuels vont peut-être... si en fait on a nos comportements actuels alors qu'on a d'autres espèces extraterrestres, peut-être que si elles vont trouver nos comportements actuels un peu... les mauvais comportements, les trucs de guerre débiles vont trouver ça barbare. Du coup, il faut changer en fait la manière dont on doit se comporter avec nos proches, évoluer mentalement en fait, peut-être pas physiquement, mais mentalement en fait... Ce qui veut dire que c'est comme une transcendance en fait de comportemental en fait.
Absolument, oui. C'est-à-dire que là, c'est un peu dans le petit slogan de Renaissance qui commence par n'ayez pas peur. Et moi, je pense que une grosse partie de nos problèmes actuels vient qu'on a un peu peur de tout. On a peur de l'autre et on a très très peur en ce moment. Donc, quand on a très très peur, on se rétracte, on se retranche. Et effectivement, c'est commencer par ne pas considérer que l'autre est forcément un apport de problème, mais plutôt un apport de solution, Oui, ça serait un changement comportemental qui ne consiste pas à augmenter ou à baisser le prix de l'essence ou à fermer les centrales atomiques. Ça c'est pour après. Mais effectivement, on peut varier, on peut avoir des variables d'ajustement comme le prix de l'essence ou faire des choix énergétiques. Si fondamentalement on continue à considérer que les gens qui aujourd'hui ont besoin d'aide sont forcément des emmerdeurs qui viennent nous piquer ce qu'on a, on n'arrivera à rien. Je pense que si c'est ça votre question, je pense ça, oui.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Hop, juste là,
moi je l'ai repéré. L'œil.
Bon, je ne connais pas exactement comme il faut la bande dessinée par rapport à après ce que j'ai pu voir. Moi, ça me fait enfin plaisir de voir quelque chose de positif par rapport sur les questions extraterrestres, parce qu'il y a beaucoup de films, et c'est vraiment l'image des extraterrestres qui sont vraiment envahisseurs. Et on est vraiment dans cette logique, et je rejoins un petit peu là ce que je rebondis par rapport à ce qu'il vient de dire, justement sur le côté de l'alien et du côté de la peur de l'autre. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, et je trouve qu'il faut vraiment valoriser tout ce travail de, oui, d'accord, qui était différent, mais à deux, on peut faire des choses extraordinaires que de se bouffer l'un et l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu une réflexion aussi sur les questions de l'avenir et de comment on peut, même si je comprends que l'instinct de survie fait qu'on va réagir comme ça. De toute façon, la nature ébène, malheureusement, elle est prédateur. Et donc c'est vrai qu'on a des codes qui sont comme ça. Et puis aussi, la question de la peur, c'est aussi d'aller en dehors de sa zone de confort aussi.
Oui, puis il va y avoir de toute façon une remise en question obligatoire du paradigme, enfin, ça c'est sûr. Mais bon, la métaphore de l'alien, oui, bah, c'est classiquement, c'était la peur du communisme, voilà, la série des envahisseurs, c'était ça. Mais bon, non, il y a un truc important à dire, je crois.
C'est fini maintenant. Voilà. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'au début, c'est marrant votre question, parce qu'on était parti sur un titre qui était Invasion. Et on l'a changé en cours de route parce qu'on s'est dit, oh là là, mais on voulait un peu tourner le dos à tous ces espèces de films crétins américains, les trucs. C'est que de la guerre, en fait, tout le temps. Et vu que c'était le fond du bouquin, c'était complètement différent, on s'est dit, ben non, le premier titre, Invasion, c'était vraiment peut-être le ressenti qu'auraient eu les humains, tout bêtement, de ce qui leur arrivait là, de ce débarquement sur tous les points chauds du globe. Et en cours de route, on s'est dit, ben non, en fait, c'est le point de vue des extraterrestres. Et puis surtout, désamorcer cette idée de conflit dès la couverture, parce que en plus, c'était même tout bêtement un réflexe de survie commerciale. On n'avait pas envie que les gens aient l'impression qu'ils allaient acheter une bande dessinée de baston, tout bêtement, et qu'on allait vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, parce que quand on feuillette un album en librairie, on est tous pareils, on a vite un a priori sur ce qu'on est en train de feuilleter. Et on se disait que si en plus de ça, on mettait le curseur sur un côté guerrier dès le titre, ça n'allait vraiment pas le faire, en tout cas, sur les intentions du bouquin.
Il y a eu d'ailleurs quelques réactions négatives à la lecture du bouquin la première semaine, en fait, parce que de gens qui avaient envie de lire un bouquin d'invasion, en fait, et avec des aliens très méchants et des gentils humains, des gentilles humaines, qui allaient résister en petite tenue. Et évidemment, c'était pas du tout ça. Donc après, quand je pense qu'on a perdu ce lectorat-là, parce que ça s'est su très vite que c'était pas ça, ben on a aussi gagné plein de gens formidables qui nous ont dit, ah ben enfin, un truc où finalement il n'y a pas de baston, mais il y a du suspense, C'est nous, on est dans nos objectifs. J'espère que ça vous plaira si vous ne l'avez pas encore lu. Si vous savez, peut-être que ça vous a plu. Voilà.
J'ai milité pour garder les héroïnes en petite tenue, mais j'étais en minorité. Donc je suis désolé.
Voilà, c'est l'avantage de travailler à trois. C'est que...
Non, ça c'était un sacré putain de désavantage sur ce coup-là. J'aime bien mon côté un peu sexiste.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Bonjour. À travailler à plusieurs, est-ce que vous tendez des pièges pour orienter le scénario vers quelque part ou faire des impasses ?
De pièges, non, on peut pas. Par moment, vous savez, les scénaristes, par moment, on se voit entre nous, puis on rigole des dessinateurs. Non, on met des cagoules et puis on se réunit.
Les dessinateurs,
voilà. Ça peut être cruel. C'est-à-dire que par moment, quand vous êtes scénariste, vous pouvez avoir une idée sous la douche, ça dure 3 secondes, et puis après, vous pensez au gars qui va passer une semaine à la dessiner. C'est pas un piège, mais voilà, il y a des choses incontournables, et puis voilà, mais non, c'est. on se complète et on essaye aussi. C'est vrai que là, je plaisante, mais tout le travail avec Fred, ça a consisté aussi quand même à vachement rationaliser les choses pour que le boulot de Mathieu ne soit pas un cauchemar, quoi.
C'est vraiment des propos de scénariste. C'est n'importe quoi. En fait, il y a des fois, on le maudit. Parce que tout à l'heure, Mathieu parlait de la Tour Eiffel. Ouais, il est super gentil, il en parle comme ça. Mais non, mais il y a par moments, c'est l'enfer de concrétiser vraiment une idée comme ça qu'il a eue en 3 secondes sur la douche. Évidemment, tu peux rigoler. Mais par moments, on s'arrache un peu les cheveux. On s'arrache les cheveux parce qu'on veut faire quelque chose d'original. Évidemment, on pourrait tout faire hyper vite. Et puis ça, on dirait avec l'espoir que ça passe très bien, mais ça ne passerait pas. Mais vu que le curseur est vraiment assez... pourquoi je parle toujours de curseur? C'est débile. Notre exigence. C'est la semaine du curseur.
Et oui.
J'ai eu un lot de curseurs avant de venir. Non, mais en tout cas, en termes d'exigence, on voulait vraiment aller beaucoup plus haut. Donc c'est vrai que... On se prend un peu le chou par moment.
Ça sert le récit au mieux, oui. Il faut y mettre de l'implication, du temps. Alors donc quand il y a des séquences vraiment qui demandent beaucoup voilà, je pense encore une fois à la Tour Eiffel, hein, décidément, mais elle est représentative. Voilà, il y a pas le choix. On peut pas y couper. Alors c'est pas un piège, c'est essayer de servir au mieux l'histoire. Donc il y a des passages obligés justement pour que ça donne pour avoir l'ampleur qu'on avait envie de d'y mettre.
Et puis comme on bosse à deux, enfin c'est plus Mathieu qui dessine, mais en tout cas comme on a le temps d'y réfléchir aussi en amont, ça permet aussi de faire la différence sur des séquences vraiment difficiles, voilà, où il faut vraiment avoir beaucoup d'ampleur visuellement, comme le débarquement au-dessus de Paris, là, la double page, ce genre de choses là.
Voilà. Donc je donne quand même en début d'album un petit résumé avec les lieux, enfin j'essaye. Qu'ils aient les informations le plus tôt possible. C'est pas toujours simple, mais voilà, c'est vraiment. Après, quand vous voyez que les choses évoluent favorablement, bah le curseur peut monter. C'est-à-dire que quand vous avez une collaboration, vous voyez que le gars rame et puis que de toute façon les gars, le truc est bon, bah voilà, bah vous n'en rajoutez pas. Quand les choses coulent et que, comme je disais tout à l'heure, sans blague, on rebondit, le scénariste rebondit, il se dit bah ouais, alors là ça c'est vachement bien. Donc la séquence d'après, il faut qu'elle ait la même ambition visuelle. Donc on va avoir tendance à, plutôt que de faire le truc dans un deux pièces, d'avoir une forteresse pour une case, quoi. Ou ah, c'est le jeu.
Il est exactement 17h, l'heure de conclure nos échanges. On vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde. Les auteurs seront sûrement en dédicace tout de suite. On va juste vous demander, en termes de public, si vous voulez bien sortir de la salle pour pouvoir laisser rentrer de nouveaux spectateurs. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de festival.
Merci.